C'était entre autres l'héritage économique de Pierre Fitzgibbon. Elle était donc au micro de Philippe Quentin. Voici notre chronique financière pour aujourd'hui.
Salut Michel.
Bonjour Philippe.
Alors, j'ai reçu il y a un moment le ministre démissionnaire de l'économie, Pierre Fitzgibbon. Tu as écouté l'entrevue. Comment juges-tu ses propos quelques minutes plus tard?
Ben, je pense que c'est à l'image de l'homme. Il était exactement ce qu'il a toujours été, franc. Il n'esquive pas les questions. Confiance dans son bilan. Et il a ramené, moi j'ai bien aimé quand il est revenu sur la filière batterie, rassurant. En tout cas, lui, il y croit. Puis c'est ce que je disais hier, c'est une stratégie de long terme. Il faut vraiment voir comment on positionne le Québec. Moi, j'ai beaucoup appris lorsqu'il est revenu sur le financement. En tout cas, moi, personnellement, j'avais pas compris toutes ces nuances-là. C'est toujours très, très complexe, ces montages financiers-là. Et je pense que ça aussi, il a remis les pendules à l'heure. Ce que j'aurais aimé qu'on parle davantage, parce que, bon, on a beaucoup parlé de la filière batterie, évidemment, parce que c'est énorme. Il y a le projet de loi qui va être à l'étude sur l'énergie. Mais il y a aussi toutes les zones d'innovation que le ministre Fitzgibbon a lancé. Et il y a de très beaux succès. Je pense, par exemple, à la zone quantique qui est à Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke est reconnue dans le monde pour son expertise dans le quantique. Et quand on parle de quantique, là, on parle vraiment du futur. Et ça aussi, moi, ce que j'aimais dans la façon, dans la vision de Pierre Fitzgibbon, c'était qu'il voulait vraiment positionner le Québec dans les créneaux d'avenir. Et il prenait le temps de le faire, il bâtissait. Et vraiment, la zone quantique, moi, je la connais bien parce qu'il y a eu beaucoup de partenariats avec des entreprises françaises. On a réussi à créer des liens. Il y a des entreprises françaises qui sont venues s'installer ici. Il y a des chaires de recherche qui sont liées entre les grandes universités françaises et l'Université de Sherbrooke. Donc, je la connais bien. Et ça, quand on amenait des Français visiter la zone quantique de Sherbrooke, ils revenaient avec des étoiles dans les yeux en disant « Wow! » Le Québec se positionne vraiment dans un créneau d'avenir. Et ça, c'était le but des zones d'innovation. Il y a celle de Sherbrooke, qui en a une à Bromont. Il y a la transition énergétique dans toute la région de Bécancourt, etc. Une autre de l'aérospatiale. Et je pense que d'autres arriveront. Mais ça aussi, ça fera partie du bilan de Pierre Fitzgibbon.
C'est drôle ce que tu dis, qu'il mettait les choses en perspective sur la durée, hein, aller dans le temps. Et c'est là que je l'écoutais quand il disait, écoutez, quand même qu'un retard de 12 à 18 mois pour Nordvolt sur un horizon de 35 à 50 ans, au fond, ça ne change pas grand-chose. Et il a raison. Il a raison. Sauf, Michel, qu'en politique, ouais, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. En politique, il y a des élections. Là. Il va y avoir des élections dans 2 ans. Si le gouvernement de la Coalition Avenir Québec de François Legault se présente en élection, puis que le projet de l'usine de Nordvolt, là, il n'est pas encore démarré parce que Nordvolt hésite encore, puis que le 12 à 18 mois de retard est devenu le 18 à 36 mois de retard, politiquement, là, quand même que M. Legault irait reprendre l'argument de M. Fitzgibbon de dire, écoutez, un délai de 3 ans sur un horizon de 35 ans, c'est rien, ça ne l'aidera pas beaucoup pour la campagne électorale.
Ça. Et c'est pour ça qu'on disait que Pierre Fitzgibbon n'était pas un politicien. Il est rentré avec une vision d'amener le Québec ailleurs, mais ce n'est pas... D'ailleurs, il ne parle pas comme un politicien, il n'a pas la langue de bois. Et c'est très vrai ce que tu dis. C'est peut-être un peu ça qui fait qu'il y a une espèce de manque de motivation, du moins que ce n'est pas un politicien. C'est quelqu'un qui est venu en politique pour faire des changements. Il y a donné 6 ans et, bon, il y a l'impression qu'il a donné ce qu'il fallait donner. Mais effectivement, un argument comme celui qu'il nous a donné tient la route logiquement. Mais dans une élection et en politique, c'est plus difficile.
C'est autre chose. Les réalités ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, pour juger de son travail, il faudra sans doute attendre des années, des années, des années. Et peut-être qu'on dira dans 25 ans qu'il a été un précurseur. Tu sais, je regarde.
C'est comme les grandes centrales hydroélectriques.
Ben voilà, c'est exactement là que je m'en allais. Regarde Robert Bourassa aujourd'hui. Quand on traite du bilan économique de Robert Bourassa, c'est génial. Mais à l'époque, il y avait quand même beaucoup de controverses. Les chantiers, c'était pas toujours facile. C'était risqué. Est-ce qu'on avait les compétences pour faire ci, pour faire ça? Tu sais, c'était pas évident. Alors, il y a une prise de risque. Maintenant, on ne connaît pas encore le résultat. Avec les barrages hydroélectriques, ça a fonctionné. On ne sait pas si ça fonctionnera pour la filière électrique. Et là, ben, on verra bien. Et toi, tu connais, on verra bien ce qui va arriver. Tu connais le milieu des affaires au Québec. M. Fitzgibbon dit qu'il va respecter le code de déontologie, là, attendre au moins 2 ans avant de travailler ou de représenter ou d'être, j'imagine, sur le conseil d'administration d'une entreprise qui fait affaire avec le gouvernement. Mais est-ce que tu penses que les entreprises de Québeking vont faire la file pour pouvoir l'attirer à titre de conseiller ou sur des conseils d'administration?
Ah, oh, certainement. Certainement. Bon, premièrement, c'est un financier hors pair. C'est un homme, il était très, très apprécié. Et il a siégé sur le conseil de la Caisse de dépôt. T'sais, avant d'entrer en politique, il était déjà très sollicité. C'est évident que cet homme-là va... S'il veut, les offres vont pleuvoir.
Oui, je pense pas qu'on va le voir aux ex, lui. C'est pas vraiment le style d'aller à la télévision pour commenter.
Beaucoup.
Non, ça serait quand même... Ça serait une nouvelle étonnante. Hein?
Oui,
commentateur
oui, là,
politique. Non, je pense pas que ça sera le choix. Oui, contre-emploi. Ça sera pas le choix de Pierre Fitzgibbon. En terminant, Michel, la Banque du Canada qui a abaissé son taux directeur d'un quart de point encore aujourd'hui. Il est maintenant rendu, là, ce taux directeur, à 4,25%.
Oui, ben c'est d'excellentes nouvelles parce qu'on sait que les taux préférentiels des banques s'ajustent par rapport au taux directeur et que c'est les taux des hypothécaires variables s'ajustent par rapport au taux préférentiel. Donc, c'est toute une cascade. Ça veut dire que du côté des taux hypothécaires variables, on prévoit une baisse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est clair qu'il y aura d'autres baisses. On est parti dans un cycle de baisse. L'inflation n'est plus une priorité, n'est plus une préoccupation. C'est l'emploi. Et c'est la santé de l'économie canadienne. Donc, tous les analystes disent qu'il y aura d'autres baisses aux rencontres d'octobre et de décembre. Et d'autant plus que la Réserve fédérale américaine se dirige, elle aussi, vers une baisse en septembre. Parce que si la Réserve fédérale américaine ne baissait pas, là, c'est notre dollar qui peut en souffrir. Mais là, si la Réserve fédérale baisse aussi, ça donne un argument supplémentaire pour la Banque du Canada de continuer sa politique.
Donc, on pourrait se retrouver avec un taux d'intérêt, un taux directeur sous la barre des 4% au début de 2025.
Exactement. Certaines grandes banques, d'ailleurs, les économistes des grandes banques, notamment de la CIBC, voient le taux directeur à 3,75% à la fin de 2024.
Bon, ça serait une excellente nouvelle, pour les emprunteurs, les épargnants.
Pour les emplettes de Noël.
Oui, pour les emplettes de Noël. Pour les épargnants, évidemment, les certificats de dépôt vont être moins alléchants, mais il y avait moyen de geler son argent à des taux alléchants il y a quelques mois à peine, alors il fallait en profiter à ce moment-là. Michel, merci beaucoup.
Merci.
C'est le moment de prendre soin de vous. Dans cette capsule, Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches vous présente quelques trucs pour y arriver. Tous ensemble pour une bonne santé mentale.
Savais-tu que ta santé mentale influence plusieurs choses? Notre santé mentale influence comment on voit la vie, notre manière de relever les défis et même comment on résout les problèmes auxquels on fait face. Ça influence nos interactions avec notre environnement, comment on rentre en relation avec les autres et comment on communique avec les autres. Notre santé mentale influence notre capacité à prendre des décisions. C'est pour toutes ces raisons qu'il est important d'en prendre soin avant que ça aille mal. Avant de vivre une détresse psychologique, il est important de maintenir un équilibre et de faire de petites actions qui vont venir nous aider à améliorer et maintenir une bonne santé mentale pour affronter plus facilement les obstacles normaux de la vie, comme un deuil ou une rupture. Prendre soin de soi, c'est quelque chose qui s'apprend et heureusement, il existe des astuces pour y arriver. On est là pour vous faire connaître 7 astuces pour prendre soin de soi et de sa santé mentale. Avec nos astuces, on vous parle des saines attitudes de vie, les comportements, attitudes, conduites à adopter pour favoriser le maintien d'un bon équilibre dans notre vie.
Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches, votre référence en matière de promotion et de prévention en santé mentale dans Chaudière-Appalaches. Pour en savoir plus, visitez le www.santémentaleca.com ou trouvez-nous sur les réseaux sociaux Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches.
Salut Marie-Ève.
Salut Patrick.
On va parler de 7-Eleven parce que 7-Eleven a été la cible d'une offre d'achat par Couche-Tard. Sauf que Couche-Tard, là, même s'il veut prendre cette grande bouchée-là, les profits ne sont pas au rendez-vous.
Non, comme d'autres commerçants Couche-Tard constate là, que les consommateurs ont moins d'argent, qu'ils font plus attention à leurs dépenses, et ça dans tous ces marchés. Ce que ça a comme conséquence, ben, c'est que le bénéfice net a reculé de 5 %. Ça, c'est pour la période de mai à juillet. Donc, c'est pas dramatique. On fait quand même 790 millions de dollars américains de profit, mais c'est la tendance qui est pas très positive, et c'est ça qui est intéressant, Patrick, ce matin. La croissance de Couche-Tard est nulle depuis maintenant 3 trimestres. Si on ne tient pas compte de ces acquisitions qui font, par défaut, hein, augmenter les ventes. C'est préoccupant. Les investisseurs commencent à le souligner, mais c'est rien d'étonnant, je te dirais. Parce que,
pourquoi?
Bon, quand il y a de l'inflation, qu'est-ce qu'on coupe en premier? C'est le superflu. Et dans une station-service, ben, à part l'essence, il n'y a pas grand-chose d'essentiel. Tu sais, friandises, breuvages, chips, billets de loterie, c'est toutes des choses qu'on peut cesser d'acheter. Donc, ce que Couche-Tard a fait, c'est qu'il a fait beaucoup de promotions dans les derniers mois là, pour convaincre les consommateurs d'acheter. Mais ça, ça a un impact direct et immédiat sur la marge de profit. Couche-Tard subit aussi d'autres phénomènes, comme la cigarette, par exemple. Hein? Les gens fument moins, donc on fait moins d'argent avec les cigarettes. Et là, ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que même les volumes d'essence ont diminué. Et ça, c'est arrivé partout dans le monde, Canada, États-Unis, Europe. C'est la même chose qui se passe partout. Couche-Tard dit seulement que c'est à cause des conditions économiques, mais est-ce qu'il y a d'autres phénomènes un peu plus lourds en arrière, les véhicules électriques, les gens qui se déplacent moins, les jeunes qui ont moins d'auto aussi? C'est quelque chose qui serait intéressant de fouiller, là.
Est-ce qu'il y a du positif quand même, là, dans le ciel de Couche-Tard?
Bien, ce que Couche-Tard voit, c'est des occasions d'achat pour les dépanneurs, parce que quand ça va moins bien, les entreprises qui ont les reins moins solides vont peut-être accepter une offre d'achat qu'il n'aurait pas accepté
comme
en temps normal.
Comme 7-Eleven.
Oui, ça, c'est vraiment pas fait. Hein. Les analystes en doutent énormément. C'est à suivre. Mais au moins, ce qu'on sait, c'est que Couche-Tard a les moyens, la discipline financière pour faire des acquisitions. Et dans un environnement difficile, ça peut être positif, Patrick. Pourquoi? Ben, parce qu'on peut prendre, quand on a des magasins aux quatre coins du monde, les meilleures pratiques dans chaque pays et les amener ailleurs dans le monde. Évidemment, les Américains, les Norvégiens, ça consomme pas la même chose. Là, quand ça rentre dans un dépanneur, c'est pas exactement pareil. Mais il y a d'autres choses qu'on peut appliquer, comme des stratégies pour la gestion de la main-d'œuvre ou de l'approvisionnement. Et ça, c'est quelque chose que Couche-Tard fait. Ils sont bons là-dedans. Donc, c'est un des avantages pour eux là, de multiplier les acquisitions à travers le monde.
Tu me disais, là, bon, passons 30 secondes là-dessus, faisons une mise à jour de l'offre d'achat de Couche-Tard pour le géant 7-Eleven. Ce serait toute une bouchée de chips, disons. Où s'en est?
On n'en a aucune idée. Aucune des deux entreprises n'a fourni d'informations dans les deux dernières semaines. Donc, dans le communiqué de presse d'hier, pas un mot, mais c'est l'assemblée annuelle ce matin de Couche-Tard à 10h30. Donc, on en saura peut-être un peu plus.
Parfait. Un mot maintenant sur l'industrie du jouet. Les jouets ont toujours été populaires chez les enfants, mais les enfants passent de plus en plus de temps sur les écrans. Ça va comment dans le merveilleux monde du jouet?
Bien, grâce à l'univers de Pokémon et au Lego, ça va bien cette année. Et ça, c'est un revirement de situation parce que dans les deux dernières années, là, les ventes ont été dramatiques. Mmh. Ça a beaucoup baissé, mais là, je suis tombée sur un rapport hier là, qui disait que depuis 6 mois, le nombre d'unités vendues là, est stable. Donc, juste ça, c'est une nette amélioration. Ce qui est presque curieux, je te dirais, Patrick, parce que les tendances qui avaient beaucoup affecté 2022-2023, c'est des phénomènes qui existent encore, là. Premièrement, les parents sont touchés par l'inflation, ça change pas. Ensuite, il y a eu une importante baisse de la natalité dans plusieurs pays d'Europe et ça a fait très mal. Et il y a aussi la popularité des jouets d'occasion. Ça, je trouve ça intéressant. C'est maintenant démocratisé, il y a plus de honte et c'est même tendance d'acheter d'occasion. Alors ça fait mal aux fabricants de jouets, même si on peut trouver ça positif pour l'environnement, là, ça fait mal quand même. Et si ça va mieux cette année, ben c'est en grande partie grâce à Lego. Sa popularité explose et ça, c'est en bonne partie grâce aux adultes.
Ça, c'est fascinant à quel point Lego a su traverser l'épreuve du temps.
Oui, et on a su élargir la clientèle. Est-ce que tu connais la collection Icons?
Non.
Ben, tu iras voir ça en ligne, tu vas voir, c'est assez surprenant, Patrick. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette série-là? Des poinsettias pour agrémenter la table
des
à
fleurs.
Noël.
Des fleurs en Lego?
Oui. Des bonsaïs, un Martin pêcheur et même un joli bouquet de fleurs séchées. Je veux dire, rien là, qui va plaire aux enfants là-dedans, c'est sûr. Et on mise aussi sur des Lego qui coûtent très cher, là, comme un immense Titanic à 850 $, une Porsche à 200, une montagne russe avec un moteur à 500 $. Donc, on élargit la clientèle. Ça fait exploser les profits. Mais les jeunes aussi jouent beaucoup au Lego, là. C'est la catégorie qui connaît la plus forte croissance des ventes dans le monde en ce moment, c'est la construction. Mais les peluches, les petites voitures Hot Wheels, là, talonnent de près